Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, le 18h à Arhabou, dans la commune de Gounzourey, région de Gao. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Le couvre-feu vient d'être prorogé dans toute la région de Gao. Au même moment, les radios d'Ansongo décident de poursuivre un silence jusqu'à nouvel ordre après l'assassinat d'un animateur. Pénurie du sucre, le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce des réformes et des dispositions pour y faire face. Sport, football, Coupe du Monde de moins de 17 ans, le Mali fera sa première sortie demain à 9h face à l'Ouzbékistan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Imrana Kilomega à la mise en onde de Philly Dambélé. L'insécurité n'affaiblit pas dans la région de Gao, une situation qui se traduit par des braquages, des enlèvements de biens et de personnes, des assassinats ciblés. Les populations désemparées appellent les autorités à prendre des mesures. Dans la foulée, le chef de l'exécutif régional a décidé de proroger le couvre-feu instauré depuis le 9 septembre 2023. Le point avec Idrissa Sako.
Cette recrudescence de l'insécurité dans la région de Gao inquiète les populations. Dans cette région, les groupes armés imposent une loi de prédation et de violence, tandis que les autorités locales et la société civile tentent de s'organiser. Récemment, une attaque menée par des hommes armés sur la route Labezanga-Ansongo a coûté la vie à un animateur. Un autre a été blessé et deux autres personnes ont été enlevées. Suite à cet événement, une journée sans radio a été organisée par toutes les radios de la région de Gao. La situation a amené les autorités locales à prendre des mesures. Dans un communiqué, le gouverneur de la région a indiqué que le couvre-feu instauré le 9 septembre est prorogé à compter de ce mercredi 8 novembre 2023 de 22h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Dans la région de Gao, la mesure est diversement appréciée. Si pour certains elle est efficace, pour d'autres elle a un impact sur le rendement des activités. À noter que la même mesure est également en vigueur à Tombouctou jusqu'à nouvel ordre.
L'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a décrété un silence radio dans la région de Gao. Cela fait suite à l'attaque contre un convoi d'hommes de médias sur l'axe Gao-Ansongo. Cependant, cette opération se poursuivra en Songo jusqu'à ce que les deux animateurs soient relâchés, prévient Issoufa Moussa Touré, coordinateur de l'IRTEL à Ansongo. Nous l'écoutons.
Il y a silence radio au niveau de la région de Gao, mais au niveau du cercle d'Ansongo, quand bien même que le silence radio prend fin aujourd'hui dans la région, mais au niveau d'Ansongo, nous continuerons. Nous ne pouvons pas émettre jusqu'au jour où nous aurons l'information de nos collègues qui sont en vie et que vraiment ils sont sains et saufs. Nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous aider afin que vraiment nos collègues puissent avoir leur liberté. Nous sommes des hommes de médias, nous n'avons rien et on serait proche de rien. Nous demandons à l'État de tout faire pour que vraiment nos collègues puissent avoir la santé. Nous remercions également les collègues partout dans le monde qui ont quand même compati à notre douleur.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Le groupement des associations de promoteurs d'écoles privées agréées du Mali poursuit sa grève de 120 heures jusqu'à ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Selon ses responsables, la suite réservée à ce arrêt de travail sera décidée samedi prochain au cours d'une assemblée générale. Les grévistes réclament au gouvernement des frais scolaires 2022-2023 le paiement de demi-bourses. La société civile malienne déplore une lenteur dans la distribution des accréditations pour la COP28 à quelques semaines de l'événement. Selon ses responsables, cela peut impacter la présence du Mali à cette conférence mondiale sur le climat. Ils exhortent les autorités à accélérer le processus. Le point avec Fatia Tara.
Ahmed Sekou Diallo, coordinateur national du consortium RL2-AFAD, impute cette lenteur au nouveau processus de distribution des accréditations.
La société civile est une partie prenante des négociations sur le climat. Le ministère de l'Environnement doit faciliter l'accréditation de la société civile pour participer honorablement à la COP.
Au ministère de l'Environnement, on rétorque qu'il n'y a rien d'alarmant. Pour des environnementalistes, une éventuelle absence du Mali à la COP 28, 2028 pourrait impacter négativement ses intérêts. Abdraman Sanogo, environnementaliste.
Ce n'est jamais bon de rater un événement international. Le principal enjeu pour les pays comme le Mali, c'est de lever des fonds pour financer les projets dans lesquels on utilise surtout les énergies renouvelables. Surtout que cette conférence est dédiée un peu à la transition énergétique.
Rappelons que la COP28 est prévue du 30 au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Le ministre du Commerce et de l'Industrie en colère contre les importateurs du sucre suite à la nouvelle flambée du produit. C'était mardi lors d'une rencontre avec ses opérateurs économiques. Selon Moussa Alassane Diallo, ces derniers n'ont pas respecté leur engagement. Sur 100 000 tonnes de sucre, seulement 40 000 tonnes ont été importées par les opérateurs économiques du Mali. Moussa Alassane Diallo annonce des réformes et des dispositions pour faire face à une nouvelle pénurie du sucre. Il est au micro de Aboubekrine Ag Mohamed Niatara.
C'est l'obligation pour chacun d'entre nous de respecter les engagements que nous avons. Et vous n'avez pas totalement respecté vos engagements. L'État fait énormément de sacrifices pour vous accompagner, pour vous aider. Quelle que soit l'inflation du prix du marché sur le marché international, le gouvernement a consenti le sacrifice de fixer la base taxable à 200 000 francs la tonne. Mais c'est une rétention de stock que vous avez effectuée. C'est une pénurie artificielle. C'est une crise fabriquée. Celles et ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de sucre sur le marché, ce sont nos parents. Travaillons dans le respect des engagements mutuels. Nous avons effectué 3 874 contrôles. Et il y a 789 procès-verbaux de constats qui ont été délivrés par les enquêteurs pour non-respect de prix plafond. Je lance une fois de plus un appel vibrant pour tous pour qu'ensemble nous puissions construire cette deuxième opération, ravitaillement du marché en sucre.
Le dossier de cette semaine s'intéresse au port du pagne. Selon les constats de nos jours, beaucoup de jeunes filles délaissent les pagnes au profit des pantalons, des robes et jupes. Pour des traditionnalistes, cela s'explique par le changement de mentalité et de tendance que représente le pagne pour la femme. La réponse dans le dossier de la semaine réalisé et présenté par Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
Moi, je porte le pantalon parce que tout simplement, ça me met à l'aise. Quand tu attaches le pagne là, je peux pas faire assez de mouvements avec.
Je suis à Kaï et je porte le pantalon parce que quand je fais les travaux ménagers, ça me met à l'aise. Et ce n'est pas comme le pagne où il faut chaque fois ajuster.
Je suis à Bamako. Moi, j'aime porter les pagnes parce que c'est vraiment bon et adaptable pour les femmes.
Je suis rarement pagne. J'aime beaucoup plus les pantalons que les autres.
Comme vous venez de l'entendre, la majorité des jeunes filles aujourd'hui préfèrent les pantalons et les jupes au pagne. Pourtant, pour la conseillère conjugale à Ségou Maïmouna Kamara, au-delà de l'aspect protection, le port du pagne est un moyen d'identification.
Le pagne est sacré pour la femme. C'est un signe de respect chez elle. Même quand une femme se marie, on lui demande de laisser le pantalon. Depuis l'enfance, on lui apprend comment utiliser le pagne. Je conseille aux jeunes filles de laisser les pantalons et mini-jupes. Il y a des jeunes filles qui ne savent pas comment utiliser le pagne, mais c'est la faute au
pagne.
Ces propos sont soutenus par Cheikh Kanté, traditionnaliste à Yanfolila. Il affirme que le pagne a beaucoup d'utilité pour la femme.
Le pagne est un signe de protection et de sagesse chez la femme. Quand donc on arrive à un certain âge, on dit donc que la personne a atteint l'âge de maturité. La maman donnait à sa fille. Le pagne était attaché à gauche. Et là, en ce moment, ce n'est pas comme maintenant les femmes font, mais en ce moment, elle insérait le dessus, le reste de pagne. Et en cas de danger, alors le pagne se détachait difficilement.
Par ailleurs, il existe aussi des interdits autour du pagne. Selon des croyances, certaines façons d'attacher le pagne peuvent porter malheur. Cheikh Kanté, traditionnaliste à Yanfolila.
Bon, on n'attache pas à droite parce que quand une femme attache toujours le pagne à sa droite, ça montre de mauvais signes. Soit elle perd son premier mari ou bien son premier enfant. On n'attache pas le pagne au-dessus de l'homme parce qu'il y a des femmes qui ont de gros ventres. En attachant au-dessus de l'ombre, donc manque de sécurité et de protection.
Toutefois, les traditionnalistes invitent les parents à apprendre aux jeunes filles comment attacher un pagne. Selon lui, en plus d'être l'une de nos valeurs traditionnelles, il permet de protéger la femme.
La 19e édition de la Coupe du Monde de moins de 17 ans démarre ce vendredi. 24 équipes dont le Mali sont qualifiées pour cette compétition qui se dispute en Indonésie. Elle va s'étaler du 10 novembre au 10 décembre prochain. Mariam Maïga.
Pour cette édition, le Mali évolue dans la poule B en compagnie de l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan. Les Aiglonais feront leur première sortie ce vendredi à 9h contre l'Ouzbékistan. Ils joueront ensuite successivement face à l'Espagne le lundi 13 novembre et le Canada le 16 novembre, toujours à 9h. Le Mali, qui a sa 6e participation à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, est habitué au dernier carré. Ils ont déjà fait leur preuve lors des précédentes éditions, terminant 4e en 2017 et atteignant même la finale en 2015. Pour cette campagne 2023, l'équipe malienne est conduite par l'ancien aigle Soumeila Koulibaly. En plus du Mali, les autres représentants africains sont le Sénégal, le Maroc et le Burkina Faso.
Merci Maria Maïga, c'est tout pour cette édition que vous avez la possibilité de réécouter gratuitement sur Viamo 37 321. Vous pouvez également retrouver toutes ces productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Ce qui met fin à cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilo Maïga, merci de l'avoir suivi. Dans notre magazine Tous les enfants du Mali, nous allons faire un zoom sur le goûter au Mali. Beaucoup de parents en donnent de la nourriture à leurs enfants différents des 3 repas journaliers. Cette pratique existe dans plusieurs localités. Des parents affirment que cela permet d'amoindrir la faim de l'enfant. Cependant, ce n'est pas à tous les parents qui donnent le goûter et l'argent du goûter aux enfants. Le magazine Tous les enfants du Mali est une réalisation de Fatmata Kodjo avec le concours de nos correspondants. Correspondant présenté par Ali Sissé.
À Bamako, Yoroso, Massina et Badjangara, les parents avancent diverses raisons qui les poussent à donner le goûter de l'après-midi aux enfants. Ces goûters sont généralement servis entre 10h, 16h et 18h.
Chez nous à Yoroso, je réserve le reste du déjeuner pour le goûter du soir de mon enfant. À l'absence de celui-ci, je lui donne 25 francs pour acheter du pâté et la patate. Le repas du midi ne lui permet pas d'attendre le dîner.
À 17h, lorsqu'ils reviennent de l'école, je leur donne le reste du déjeuner. S'il n'y en a pas, je leur donne l'argent pour acheter à manger.
C'est très important, mais il existe une grande différence entre la vie en ville et celle du village. Ce n'est pas tout le temps facile.
En tout cas, les enfants se réjouissent d'avoir ce repas dans plusieurs localités. Certains enfants témoignent qu'ils en prennent chaque jour. Écoutons leurs réactions.
Ici à Yoroso, je mange chaque soir entre 16h et 17h. C'est ma mère qui me donne 50 francs pour que j'achète du pâté.
Soir, quand j'ai faim, ma mère me donne l'argent pour acheter le goûter. Après chaque départ, ma mère me garde les restes pour le goûter du soir. Dans les cas contraires, elle me donne de l'argent pour acheter du pâté ou de la patate.
Quand j'ai faim le soir, c'est Fanta qui me donne l'argent pour que j'achète à manger.
Selon des nutritionnistes, le goûter de l'après-midi a une importance capitale sur la santé des enfants. Burama Traoré est nutritionniste. Il signale que l'enfant a besoin d'un repas supplémentaire pour renforcer son système immunitaire.
Si on prend les besoins d'énergie de l'enfant, c'est à peu près 100 kilocalories par kilogramme de poids corporel et par jour. Si vous prenez un adulte, lui, il a besoin de 45 kilocalories par jour. Les pâtés, les patates, en plus d'énergie, c'est à base de céréales. En même temps, il y a certains micronutriments qu'on retrouve dans ces patates. Donc, c'est très important pour l'état de santé de l'enfant, pardon.
La pratique a toujours existé dans notre société, soutiennent des sociologues. Mais ils soulignent qu'aujourd'hui, les parents ne doivent pas donner l'argent du goûter tout le temps.
Ce goûter leur permet de ne pas tendre toujours la main aux autres. On peut aussi souligner que l'excès de toutes choses est nuisible. Donc il ne faut pas forcer toujours cet acte. Et même si toutes les conditions sont réunies, il faut quelquefois refuser de donner de l'argent ou d'acheter toujours ce que l'enfant demande.
Il faut noter que certains parents ne donnent pas les goûters aux enfants. Par ailleurs, des nutritionnistes soutiennent que ces repas supplémentaires n'ont aucune conséquence sur la santé.